Je vous invite à chercher le livre de Daniel que nous étudions en ce moment et nous allons lire le chapitre 6. Donc lisons ces trentaines de versets dans Daniel chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. « Roi Darius vit éternellement. » Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à trois, au roi sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, au roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait invoquer son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. « N'as-tu pas écrit une défense pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite. » Et il fait sa prière trois fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu serves avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre, on la mit sur l'ouverture de la fosse, le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel ?» Serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vie éternelle, mon Dieu a envoyé son ange à fermer la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai fait rien de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et l'ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient été accusés de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume. On est de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospérera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Est-ce que cela vous a déjà coûté de suivre Jésus-Christ? Est-ce que vous avez dû renoncer à un confort, à une facilité à cause de votre foi, à cause des valeurs chrétiennes à laquelle vous adhérez? Probablement, dans notre monde, à notre époque, oui. À cause de votre foi, vous avez peut-être dit non à un patron, ou bien vous avez sacrifié votre confort, vous avez peut-être perdu des amis. Ou peut-être ce matin, vous hésitez à vous lancer dans la foi chrétienne à cause de ce que cela peut vous coûter au niveau de la réputation, au niveau du confort, au niveau de toutes sortes de choses. Il y a un philosophe québécois qui a écrit un livre il y a quelques années, qui est devenu un peu connu. Le livre s'appelle « L'âge séculier ». Et ce philosophe, il entreprend le projet de savoir pourquoi, dans les dernières 500 ans, est-ce qu'on est passé d'un monde très croyant, en tout cas en Occident, un monde très croyant, à un monde très séculier, très athée. Et c'est un très grand livre, donc il explore beaucoup de choses, mais une piste qu'il offre, c'est que dans la pensée moderne, il y a eu cette évolution des choses, mais dans la pensée moderne, la valeur suprême, c'est l'épanouissement personnel. Et on s'attache aux choses qui apportent épanouissement et confort et réussite, et on abandonne tout ce qui n'apporte pas réussite et épanouissement et confort. Et il dit, oh, ça c'est effectivement de plus en plus incompatible avec la foi chrétienne, qui parfois nous appelle à souffrir, qui nous appelle au renoncement, qui nous appelle à avoir le courage de nos convictions, même quand c'est inconfortable. Alors, de notre époque, on laisse tomber assez facilement la foi, on laisse tomber l'Église, on laisse tomber nos mariages. Lorsque ces choses deviennent inconfortables, ou lorsqu'il y a un prix à payer, parce qu'on ne veut pas payer ce prix, parce qu'on estime que le plus important, c'est quand ça m'apporte un plus à moi, quand ça m'apporte un confort, une facilité, un épanouissement. Mais ce chapitre, la vie de Daniel, va nous montrer ce matin qu'il y a une cause plus noble que l'épanouissement et le confort personnel auquel notre monde, notre société est tellement attaché. Et si notre fidélité à Dieu, si notre fidélité à Jésus-Christ comprend un prix à payer, eh bien Daniel nous montre que cela vaut la peine d'être payé. Et cette cause, c'est un peu la conclusion de ce chapitre, cette cause c'est le Dieu vivant. Le Dieu vivant est son royaume éternel. Et c'est pour ça que nous pouvons rester fidèles, quoi qu'il en coûte, parce que Dieu est là, son royaume dure, et qu'il va délivrer ses enfants. Et c'est ce décret de Darius qui résume un peu la leçon que nous pouvons retirer de tout ce chapitre. C'est qu'il y a un Dieu qui est vivant, et qui règne, et comme dit le dernier verset, le verset 27, c'est lui qui délivre et qui sauve. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel a payé le prix de sa fidélité, mais il a vu Dieu le délivrer. Alors, j'aimerais prendre ce verset qui est un résumé de tout le chapitre. C'est Dieu qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Et nous allons voir donc ces différentes choses, ces aspects de ce chapitre, de cette histoire. Tout d'abord, la puissance des lions, ensuite la fidélité de Daniel, et enfin la délivrance de Dieu. D'après ce verset qui résume tout le chapitre. Parlons d'abord de la puissance des lions. C'est ce qui rend cette histoire si mémorable. Je pense c'est la présence de ces lions. C'est pour ça que les écoles de dimanche aiment bien cette histoire. Les enfants aiment toujours les histoires de la Bible qui ont des animaux. Que ce soit le déluge de Noé ou ici la fosse aux lions. Alors c'est vrai que le lion, à quoi on pense quand on pense au lion? Le lion c'est un animal régalien. C'est le roi de la jungle. Il y a quelque chose de majestueux, et c'est vrai, c'est aussi dans la Bible une image de Jésus-Christ. On peut admirer les lions. On est content qu'il y en a un ou deux à Plaisance de Touche ici pour visiter. Mais vous avez compris, ce chapitre n'est pas Hakuna Matata avec le roi lion Simba. Les lions, image où nous rappelle autre chose. Le lion, c'est une bête féroce, une bête violente, une bête carnivore. Et ici, c'était l'instrument de mort pour les suppliciés. Alors, on est bien d'accord que la grande menace pour Daniel et son peuple fidèle n'est pas tant des animaux, mais des hommes et des autorités qui sont contre Dieu, qui sont anti-Dieu et qui vont les persécuter. Et dans ce livre de Daniel, les lions et les bêtes féroces deviennent aussi des images pour parler des nations et des empires et des rois qui sont en place, qui vivent selon leurs valeurs et qui peuvent persécuter ou rendre la vie difficile pour les croyants et les fidèles. Daniel a fait face à des vrais lions, mais il était aussi face à des bêtes féroces telles les rois et les empereurs tout au long de sa vie. Et d'autres fidèles, d'autres chrétiens à travers les âges ont vécu la même chose. Les psaumes notamment évoquent les lions, souvent pour parler des puissances qui persécutent le peuple de Dieu. Quand vous lisez par exemple le 122 verset 13, David se gémit, se plaint, ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et rugit. Ou encore en psaume 35, verset 17, « Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. » Et quand on regarde cette histoire avec la fosse aux lions, ce chapitre 6, quand on regarde dans les détails, on découvre que cette histoire se ressemble vraiment à celle que nous avons étudiée il y a quelque temps, en chapitre 3, avec la fournaise ardente. L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions est quasi identique à celle de ses amis, les trois amis, dans la fournaise ardente. Dans chaque histoire, le roi se prend pour Dieu. Dans chaque histoire, le roi impose un faux culte. Dans les deux récits, les fidèles refusent de trahir leur Dieu. Ils refusent de trahir leur conscience. Alors dans les deux récits, ils sont livrés au supplice, ils sont livrés au danger. Dans les deux cas, Dieu les délivre. Elle les fait prospérer miraculeusement. Dans les deux cas, on signale qu'ils sortent du danger sans aucune blessure, aucune indemnité. Dans les deux cas, ceux qui les ont jetés dans le danger eux-mêmes périssent. Et dans les deux cas, le roi à la fin termine lui-même par décret. Le roi est obligé de reconnaître qu'il y a un roi au-dessus de lui, il y a un Dieu suprême et un Dieu vivant qui domine et qui délivre. Donc Nebuchadnezzar l'avait reconnu à son époque en chapitre 3, et ici Darius est obligé de reconnaître à son époque. Alors vous voyez que ce soit l'Empire babylonien, ou que ce soit l'Empire médo-perse ici, c'est la même chose. Et dans ce livre de Daniel, s'il y a une histoire qui se répète avec tant de détails similaires, c'est que ça va devenir un modèle pour les croyants à travers les âges. Et ce schéma va constamment se répéter. Les rois de ce monde se prennent pour Dieu et ils utilisent leur puissance pour menacer, pour détruire. Donc, par exemple, plus tard, après, donc il y a l'Empire babylonien, l'Empire médo-perse, et après il va y avoir le royaume grec. Et on a la même histoire à l'époque des Maccabées. Un roi va se lever, il va vouloir interdire le culte, profaner le temple, il va mettre à mort les fidèles, mais Dieu va préserver son peuple, le culte va être restauré, le temple va être purifié, c'est ce que les juifs célèbrent à Hanouka. C'est cette manière que Dieu a délivré son peuple lors d'un roi grec qui a agi exactement comme Nebuchadnezzar et comme Darius. Et puis plus tard, l'Empire romain va faire la même chose. Les Césars vont se prendre pour Dieu. Ça va poser un problème aux chrétiens qui ne croient pas que César est Seigneur, César est Dieu, mais que Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Et donc, l'Empire romain va persécuter les chrétiens. Mais Dieu va les délivrer dans le temps. Il va même faire prospérer la foi chrétienne et l'Église chrétienne qui finalement va remporter en quelque sorte, en tout cas, sur l'Empire romain. Et puis la Bible dit, c'est pas fini, on va vers ce même schéma, vers la fin de l'histoire, où il y a encore un roi qui va se prendre pour Dieu. La Bible l'appelle l'Antichrist, mais lui aussi décrit comme une bête féroce, qui va persécuter le peuple de Dieu, mais qui un jour va être renversé. Et ce schéma qui se répète constamment était les autorités, les puissances, les rois, les empereurs sont imagés, sont illustrés par ces bêtes féroces qui deviennent méchantes et violentes et qui persécutent le peuple de Dieu. Et le message de Daniel, c'est ce qui transforme les individus, ce qui transforme les États en quelque chose de bête, quelque chose de méchant, quelque chose de violent, quelque chose d'intolérant, c'est quand ils veulent prendre la place de Dieu, quand ils reconnaissent pas le Dieu qui est dans le ciel, quand ils imposent leur propre culte, et c'est ça qui les rend bêtes, c'est ça qui les transforme en des bêtes féroces. Et on a vu ça avec Nebuchadnezzar dans le chapitre 4. Lui-même, il s'est enorgueilli, il s'est pris pour Dieu, et Dieu l'a transformé dans une bête sauvage, littéralement, avant qu'il soit rétabli. Donc, le thème des bêtes féroces est très présent dans ce livre de Daniel pour montrer, illustrer ce que deviennent ce monde, ce que deviennent les royaumes de ce monde quand ils ne reconnaissent pas Dieu, un Dieu suprême. Prenez le cas de ce roi Darius. C'est vrai que lui, il semble pas très puissant. Les lions sont puissants. Lui, le roi, il semble pas très puissant. Même c'est un roi faible. Il se fait facilement manipuler par ses conseillers qui sont jaloux de Daniel. Et ils viennent le voir et disent, tout le monde est d'accord, on va mettre en place un édit royal et on va adresser toutes nos prières à toi. Pendant 32 jours, tu seras le seul récipient des prières de tous. Alors, ça revient à dire quoi? Ça revient à lui proposer, pendant 30 jours, tu peux être Dieu. Tu peux être le Dieu suprême. C'est sympa. 30 jours, c'est toi le seul Dieu. Les enfants sont très contents quand ils ont la fève dans la galette parce qu'ils peuvent être le roi de la soirée ou la reine de la soirée. Eh bien, Darius, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est un peu plus bête. Pendant 30 jours, c'est toi le Dieu. Et finalement, ça, oui. On vient lui dire, tout le monde est d'accord. Il oublie qu'il aurait pu demander à son plus sage conseiller Daniel, est-ce que c'est une bonne idée? Mais il se fait facilement manipuler parce que c'est l'occasion d'être Dieu. Et au fond, tout péché nous propose cette même séduction, cette même offre. C'est toi qui peux être Dieu. Donc on voit un roi impuissant, on voit sans grande conviction. Il est impuissant contre sa loi. Quand la loi est mise en place et il se rend compte qu'il a été piégé, il peut rien faire ou il n'ose rien faire. Ah oui, ça c'est irrévocable. Il essaie de sauver Daniel, il est impuissant pour sauver Daniel. Et par là, on voit que lorsqu'une société est remplie de personnes faibles comme ça, sans conviction, que chacun veut être Dieu, c'est ça qui pousse le monde à devenir tyrannique, ce qui ouvre la voie pour l'oppression. Et les gouvernements qui donnent place à des dictateurs. Et c'est l'histoire récente de ce qu'on a vu ça dans le communisme, où quand les nazis étaient en place, il a suffi peu de choses pour que ces royaumes deviennent des bêtes féroces pour détruire, pour opprimer les croyants et d'autres. Et encore aujourd'hui, on veut se méfier des personnes, des infirmes, de nous-mêmes, de nos cœurs, qui souvent veulent prendre la place de Dieu et qui ne reconnaissent pas un Dieu suprême dans le ciel. Et ça, c'est dangereux pour un individu, c'est dangereux pour un État. Récemment, vous avez peut-être suivi l'histoire en Angleterre de ce petit garçon, Alfie Evans. C'était assez touchant, il avait une maladie incurable. Mais les parents voulaient le sortir de l'hôpital et ils voulaient poursuivre d'autres pistes de soins. S'il fallait des soins palliatifs, mais et ils s'accrochaient à la vie de leur enfant, ce qu'on peut comprendre. Et ils voulaient simplement changer d'hôpital et chercher d'autres soins. Le pape était prêt à tout financer. L'Italie avait accordé la nationalité pour les accueillir. Un avion était prêt à fréter pour faire le transfert. Mais l'État britannique a empêché, a dit non. Nous voulons préserver, c'est nous qui savons mieux dans cette situation, nous voulons préserver le droit de mourir de cet enfant, c'est un peu le langage, le droit de mourir de cet enfant. Et nous sommes mieux placés que les parents. Et on voit par là, les questions médicales sont assez complexes dans ces situations, mais on voit une évolution inquiétante où l'État se voit de plus en plus apte à prendre la place des parents ou de Dieu et dire nous sommes, c'est nous qui avons le droit de vie et de mort sur nos citoyens. Donc encore aujourd'hui, on peut voir que l'attachement aux valeurs chrétiennes, l'attachement au Dieu créateur, l'attachement à la dignité de la vie risque de nous coûter dans nos convictions. Et ça, c'est un peu toute la puissance des lions qui est là. Quand une société oublie Dieu, elle devient féroce et violente envers ces sujets, notamment les croyants. Mais c'est face à cette puissance des lions, cette puissance inquiétante, cette puissance terrible, menaçante, que Daniel, c'est ça qui va faire éclore, c'est ça qui va manifester toute sa fidélité. Donc nous pouvons voir en deuxième point maintenant la fidélité de Daniel. C'est la qualité qu'on retient de lui en verset 4. Il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et Darius a constaté ce même qualité chez son serviteur quand il a dit, hein, « Est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance ?» Daniel était fidèle, fidèle dans ses tâches, mais surtout fidèle auprès de son Dieu. Et on peut dire que dans un premier temps, c'est la fidélité de Daniel qui lui a valu son succès, sa faveur auprès du roi. Les premiers versets montrent que oui, déjà il avait en lui un esprit supérieur, certainement parce qu'il était attaché à Dieu. Et puis, on ne trouve aucune, même quand il cherche, on ne trouve aucune occasion, aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Et c'est parce que Daniel est fidèle et sage et droit, certainement que Darius a le projet de l'établir lui comme premier ministre. Verset 3 dit que le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Donc apparemment il y a ces trois chefs, puis il y avait des satrapes, puis il y a tout le royaume. Et parmi ces trois chefs, le roi Darius, il préfère Daniel par sa fidélité, son intégrité, et il aimerait établir Daniel comme premier ministre, en tout cas, sur les autres. On dit parfois que le grand miracle de ce chapitre, plus que la fosse au lion, c'est de voir un haut fonctionnaire dont on ne trouve aucune faute, rien de mauvais. Toute une vie de service dans la politique, la fonction publique, sans faute, sans corruption, sans mensonge, sans rien de mauvais. Ça, c'est miraculeux, encore de nos jours. Alors certes, dans un premier temps, votre fidélité, votre attachement aux valeurs chrétiennes, à l'intégrité, votre foi en Dieu, risque de vous faire réussir. Et c'est une bonne raison d'être fidèle. Ça rend service à la société et au monde. Des personnes comme Daniel qui servent fidèlement en tout domaine. Mais la réussite et la faveur des hommes n'est pas une raison suffisante d'être fidèle. Parce que tôt ou tard, il y aura un prix à cette fidélité, en tout cas dans ce monde. Et donc, les deux autres chefs, a priori, sont pas contents du projet de Darius de mettre Daniel comme premier ministre. Il y a certainement de la jalousie, certainement du racisme aussi, parce que Daniel n'est pas, il est juif, il est un des captifs. Et donc, pour plusieurs raisons, ils aiment pas ce projet, et donc ils vont attaquer, ils vont essayer de tout faire pour descendre de Daniel. Et puisque il est intègre, ils vont attaquer Daniel sur sa foi, notamment sur sa vie de prière. Et peut-être des gens se sont, vous ont traité de la même manière, pour d'autres raisons, la jalousie ou autre, mais là, ils peuvent facilement attaquer, c'est votre foi. Et donc, il propose cet édit royal où on ne peut que prier qu'à Darius. Et même là, je dis c'est un compliment à la fidélité de Daniel parce qu'ils savent à l'avance qu'il va désobéir et ils savent à l'avance qu'ils vont pouvoir l'avoir par cette manière. Telle la fidélité de Daniel. Et ce qui est touchant de voir ces versets, verset 10 notamment, une fois que le décret est écrit, on peut remarquer que Daniel ne change rien. Dès sa connaissance du décret, il vit sa vie de foi comme avant, il reste fidèle. Et si vous avez l'habitude d'être fidèle, il sera plus facile de l'être quand c'est difficile. Si vous avez l'habitude d'être fidèle quand les choses vont bien, il vous sera plus facile de l'être quand il y a un prix à payer. C'est sûr qu'il faut se méfier des habitudes et des routines qui deviennent machinales. Et le simple geste de prier trois fois par jour peut être riche de sens, comme ça peut être creux dans certaines religions. Mais ici, on voit que l'habitude et la routine peuvent nous rendre forts dans le jour de l'épreuve, comme Daniel. Et il n'a besoin de rien changer. Comme avant, le verset 10 dit qu'il, ce qu'il fait, il le fait comme il le faisait auparavant. Le verset 10 donne quelques détails sur sa manière, sur sa foi, sa manière de vivre sa foi, notamment cette vie de prière. Je me dis, j'aimerais bien avoir une certaine quantité de Daniel dans l'église lorsqu'on fait un projet de 1000 heures de prière. Ce serait... Mais il est un bon exemple en ce qui concerne la prière. Mais au-delà de cette vie de prière, on voit toute sa fidélité à sa foi en Dieu. Regarde les détails. Comme avant, il prie avec les fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se met à genoux. Il prie, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Tout le monde remarque que Daniel, il aurait pu aller dans le sous-sol, il aurait pu dire pendant un mois, je prie dans mon cœur. Vous savez, beaucoup de gens disent, moi, je prie dans mon cœur. Pendant un mois, il aurait pu faire ça, et il aurait pu autant prier, presque. Mais Daniel, il dit, si j'arrête de prier, c'est comme si je place ma confiance dans le royaume des Mèdes et des Perses. Si j'arrête de prier, je place ma confiance dans ma position, dans mon travail, dans ma réputation. Et ça, c'est pas là où je place ma confiance. Et par ces gestes de prière, à genoux, et puis trois fois par jour, et puis tourner vers Jérusalem, il se rappelle, voilà, il dépend du Dieu, le Dieu sauveur, le Dieu qui a normalement son temple à Jérusalem, et ce temple est une image de comment Dieu sauve ses enfants par le sacrifice et veut une relation avec chacun de nous. Et donc Daniel, en suivant les principes que Salomon, le roi Salomon, avait donné à 1 Roi chapitre 8, lorsqu'un peuple est en exil et qu'il se rappelle qu'ils ont désobéi à Dieu, ils peuvent toujours tourner vers Jérusalem, tourner leur cœur, leur prière vers Jérusalem, et rappeler que le Dieu sauveur qui a manifesté, qui a illustré son salut par le temple et tous ses sacrifices, exauce et tout près de chacun de nous pour nous sauver et nous délivrer. Et donc pour nous aussi, c'est pas tant la forme qui est importante, à genoux trois fois par jour, tourner dans une certaine direction, mais c'est le placement de notre cœur qui nous rappelle qui est notre manière de vivre notre fidélité et de pouvoir se dire comme Daniel, oui, le salut ne vient pas de ma réussite. Alors chaque jour, humblement, quotidiennement, constamment, je tourne mon cœur vers nous, c'est vers la croix, vers le lieu de sacrifice, le lieu où Dieu a prouvé son salut. Et je me rappelle que mon salut vient de là et pas des valeurs de ce monde, pas des offres de ce monde, pas des exigences de ce monde. Voilà en quoi s'exprime la fidélité de Daniel. Une fidélité coûteuse, une fidélité qui était courageuse, mais c'est la qualité qu'on veut célébrer chez Daniel et qu'on veut adopter pour nous-mêmes. face à la puissance des lions, Daniel reste fidèle. Et ça, c'est ça qui est beau dans ce chapitre. Et parce qu'il était fidèle, il va découvrir la délivrance de Dieu, en troisième point. La délivrance de Dieu, c'est clairement le mot-clé du chapitre. Verset 14, le roi prit à cœur de délivrer Daniel, mais il ne va pas pouvoir. Verset 16, c'est ce qu'il souhaite à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu serves avec persévérance te délivrer. » La question qu'il pose à Daniel le lendemain matin, verset 20, « Est-ce que ton Dieu a-t-il pu te délivrer ?» Et son décret final qui publie à l'univers entier, au monde entier, c'est qu'il veut que les gens sachent que c'est Dieu, c'est le Dieu de Daniel, qui délivre et qui sauve. C'est lui qui a délivré Daniel. Donc ça c'est le mot-clé du chapitre, et c'est ce que Dieu veut vous offrir encore ce matin. C'est sa délivrance. Et le chapitre termine avec Daniel qui est complètement délivré, non seulement délivré de la fosse au lion, mais rétabli. Et verset 28 dit que Daniel prospérera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Daniel allait perdre sa position, il allait perdre sa place. Il était prêt à perdre sa vie pour rester fidèle à Dieu. Et à la fin, Dieu le restaure, Dieu le délivre et le restaure complètement. Et c'est ce message que Daniel veut offrir à tout son peuple et à tous les croyants à travers les âges. Son peuple va encore vivre des temps d'exil. Comme nous, pour l'instant, nous sommes en exil. Nous sommes encore, en quelque sorte, dans la gueule du lion. Mais un jour, Dieu va nous délivrer, va nous ramener, ce que Daniel veut dire au peuple juif. Là, pour l'instant, nous sommes à Babylone, ou à Suse, ou à ce capital des empires violents qui nous oppriment. Nous sommes dans la gueule des lions. Nous sommes livrés à leur puissance. Mais un jour, Dieu va nous sortir de là. Un jour, Dieu va nous ramener. Un jour, Dieu va nous faire prospérer dans notre pays. Ça, c'est le message que Daniel offre à son peuple, et qui était leur espoir pendant des siècles. Mais nous, quand on repense à ces lions, à ces puissances qui oppriment, qui persécutent, quand on pense même aux premiers chrétiens, les personnes comme Paul. Paul, lui, il dit en 1 Corinthiens 15 qu'un jour il a combattu les bêtes sauvages, mais qu'il a été délivré. Mais plus tard, à Timothée, il dit, moi, j'ai été délivré de la gueule des lions. Lui, il va mourir même sous les mains d'un empereur romain à cause de sa foi. Mais il appelle ça être... Mais même dans ça, il sait qu'il va être délivré de la gueule du lion. Et c'est ça la question. Quand on regarde ces chrétiens, d'autres personnes, on fait face à ces... Que ce soit des lions ou d'autres puissances. Les chrétiens sont devenus martyrs même. Et il semble qu'ils n'ont pas goûté la délivrance. Et on se dit, mais est-ce qu'eux n'avaient pas la même foi, la même fidélité que Daniel? Le verset 23 dit que Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Il a été délivré parce qu'il a eu confiance en Dieu. Mais ces chrétiens qui n'ont pas été délivrés de la mort physique, est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas confiance en leur Dieu? Mais non, Hébreux chapitre 11 parle de cette foi, la foi de Daniel, la foi de Daniel qui a pu fermer la gueule des lions. Hébreux 11 parle de cette foi, mais Hébreux 11 va plus loin et dit, oui, il y a cette foi dont on parle ce matin, cette fidélité à Dieu, cette foi qui trouve en lui le salut et pas dans les royaumes de ce monde. Cette foi peut, des fois, fermer la gueule des lions. Mais parfois, cette foi, c'est vrai qu'elle ne ferme pas la gueule des lions, mais cette foi, elle peut obtenir une meilleure délivrance, celle de la résurrection. Et certains ont vécu une délivrance comme Daniel, d'autres ont vécu une délivrance plus grande, celle de passer par les lions, passer par la mort, mais délivrée par une vraie résurrection. La résurrection qui est promise à tous les croyants et qui est garantie, assurée par la résurrection de Jésus-Christ. Et quand vous lisez les détails de ce récit, vous voyez bien que la délivrance de Daniel est clairement une image de la résurrection. Comme Daniel, Jésus a été victime des forces des rois bête et méchante, féroce, qui se prenait pour Dieu, qui ne voulait pas reconnaître en Jésus-Christ l'envoyé de Dieu. En quelque sorte, ils se prenaient eux pour Dieu. Ils sont devenus violents. Ils ont mis Jésus sur une croix, et puis dans un tombeau. Et Pilate, cette autorité romaine, a scellé le tombeau, tout comme on a scellé la fosse de Daniel. Donc jeté dans la fosse a été scellée. Pour Daniel, un ange a fermé la gueule du lion. Pour Jésus, un ange a roulé la pierre. Et dans les deux cas, les gens sont allés courir très tôt le matin pour voir ce qui s'est passé. Alors, on a parlé de Darius, ce roi faible, ce roi lâche, qui, à cause de sa lâcheté, sa faiblesse, son royaume est devenu tyrannique. Mais on ne peut qu'apprécier ce roi Darius. Peut-être il s'est racheté un peu. Oui, il a connu une transformation. Ce que je trouve touchant, les versets 19, il se lève au point du jour et il alla précipitamment à la fosse au lion. Et il appela Daniel d'une voix triste. Comment vous imiterez cette voix triste? Mais au moins, c'est ce qui me semble incroyable, c'est qu'au moins il parle dans cette fosse, il parle à cette fosse. Il n'y a aucune raison pour lui d'espérer qu'il y ait un être vivant dans cette fosse. Il a déjà certainement envoyé plein de gens à la fosse au lion. Une fois qu'on envoie les gens à la mort, on revient pas le lendemain matin pour voir comment ils se portent. Donc, pourquoi il était allé là? Et pourquoi cette lueur d'espoir et de foi? Je me dis qu'il a fait mieux, Darius, ce roi Darius a fait mieux que les disciples de Jésus, dont aucun n'est allé au tombeau le matin du troisième jour, alors que eux, ils étaient constamment prévenus que Jésus allait ressusciter. Eux, ils sont pas allés. Alors, ce roi Darius, peut-être a-t-il déjà une semence de foi qui va pouvoir grandir pour devenir une foi semblable à celle de Daniel. On ne sait pas si ces rois, Nebuchadnezzar, Darius, d'autres se sont vraiment convertis, ou bien ils ont été touchés par, en tout cas, le croyant. Mais ce qui reste vrai, c'est que la piété de Daniel, les prières de Daniel, la foi de Daniel, la fidélité de Daniel a touché le cœur de ce roi pour que il s'est dit peut-être le Dieu de Daniel est quand même plus puissant, plus fort que je le pense. Et peut-être c'est à ce Dieu qu'il faut prier et pas à quelqu'un comme moi, impuissant. Et donc c'est touchant de le voir poser la question dans cette fosse. Je ne sais pas s'il était surpris ou non, mais Daniel répond en pleine vie, oui, tout va bien. J'ai été délivré, sans aucune blessure. Et nous aussi, nous avons vu Jésus-Christ ressuscité sans aucune blessure, ayant passé par la mort et la croix, mais complètement rétabli. Et la résurrection de Jésus maintenant garantit que Dieu peut nous délivrer en toutes circonstances. Et c'est ça la promesse certaine pour le peuple de Dieu. C'est d'être un jour restauré, un jour délivré, un jour rétabli, pour régner avec Christ, tout comme Christ l'a été à travers le tombeau. Et le comble dans tout ça, c'est que le royaume que Dieu nous offre, qui est très différent au royaume de ce monde, qui fonctionne avec l'orgueil, la violence, l'intolérance, le royaume que Dieu nous offre, ce royaume d'amour, ce royaume de justice, ce royaume, le comble, c'est que ce royaume nous offre l'épanouissement personnel que nous cherchons tous. Puisque c'est le seul royaume qui fonctionne avec l'amour du prochain, avec la justice, contrairement au royaume de ce monde. Mais alors lorsque nous cherchons à vivre selon la vérité, selon la foi, selon la fidélité, et pas en mettant l'épanouissement personnel et le confort personnel en premier, mais en comptant sur Dieu, finalement il nous offre ça aussi, tout comme Daniel va finir par prospérer. Mais il n'a pas cherché, lui, la prospérité en premier lieu. Il a cherché la fidélité en premier lieu. Qu'est-ce que vous cherchez ce matin en premier lieu devant Dieu? Est-ce que la foi vous coûte quelque chose? Est-ce que la foi vous produit des difficultés, des inconforts dans la vie? Eh bien, encore Daniel, ce matin, vous dit courage. Un jour, les royaumes de ce monde, un jour, les puissances qui nous oppriment de ce monde, vont passer, comme tous les royaumes les uns après les autres sont passés, et on connaîtra le royaume éternel, le royaume, le vrai de Dieu, et nous pouvons vivre là. Que Dieu vous aide à être fidèles comme Daniel. Prions pour terminer. Seigneur, c'est vrai, nous voulons reconnaître cette tendance de nos cœurs à chercher la facilité, à chercher ce qui nous plaît, à chercher le confort personnel. Nous le faisons trop souvent dans la vie, aussi dans la vie chrétienne, dans la vie d'église. Et nous te demandons pardon, nous te remercions de ce que tu nous donnes des exemples, des hommes courageux, des hommes qui étaient prêts à payer le prix pour te suivre. Nous te remercions surtout pour Jésus-Christ qui n'a pas cherché son confort personnel, ce qui lui plaisait, mais il est venu pour mourir, pour donner sa vie pour nous et pour ressusciter. Et sa délivrance, la délivrance que tu as opérée ce jour-là, le jour de la résurrection, devienne aussi la nôtre, devient un schéma pour notre vie. Nous te prions de nous aider à te suivre, à être fidèle en toutes circonstances, à te glorifier, à te servir avec tout ce que tu nous as donné. Merci parce que nous pouvons vivre pour ton royaume et chercher ton royaume, premièrement, et c'est ça qui nous apporte tout le reste. Nous te remercions pour ce culte que nous avons vécu ensemble et nous te prions que tout au long de cette semaine, tu nous aides à être des serviteurs fidèles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.